La suite dans les idées, Sylvain Bourmeau. Il y a deux semaines, deux sociologues, Sylvie Octobre et Vincenzo Schicchelli, évoquaient ici leur grande enquête sur l'extraordinaire cosmopolitisme des jeunes qui habitent notre pays. La semaine dernière, le démographe François Héron rappelait une évidence, qu'il fallait traiter l'immigration comme un fait social et relativiser les effets parfois des politiques migratoires. Il pointait aussi combien, par contraste avec celle menée par la chancelière allemande Angela Merkel, la politique de la France n'avait pas brillé par son ouverture s'agissant de ce qu'il est convenu désormais d'appeler la crise des migrants. Il est toutefois une exception que je voulais souligner ici et aujourd'hui, le programme d'accueil des scientifiques étrangers en situation d'urgence. Ce programme d'accueil des scientifiques étrangers en situation d'urgence, qui s'appelle le programme PAUSE, eh bien pour en parler aujourd'hui autour de la table de la suite dans les idées, deux chercheuses enseignantes en sciences humaines et sociales, Pascal Laborier, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Nanterre et qui a été au cabinet du ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, chargé des sciences humaines et sociales, mais aussi de la vie universitaire et à ce titre des migrants et de cette question. Et d'un autre côté, Liora Israel, qui est sociologue, maître de conférence à l'école des hautes études en sciences sociales et qui s'est vu confier par ce même ministre il y a un peu plus d'un an la rédaction d'un rapport sur la question de l'accueil des chercheurs étrangers en situation d'urgence. Alors je voudrais qu'on revienne, Pascal Laborier, sur ce moment où, en pleine crise des migrants, comme on dit, déjà démarré depuis un moment, mais intensifié peut-être à l'été 2015, vous prenez la conscience de ce problème dans le domaine qui vous occupe, celui du monde académique, du monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, et vous décidez d'en savoir plus, peut-être de faire un point sur ce qu'il en est de ces chercheurs qui viennent sans doute, j'imagine, tenter de taper à la porte des institutions de recherche et d'enseignement supérieur en France. Pascal Laborier.
Bonjour Sylvain. Oui, quand nous sommes arrivés en août 2015 avec l'équipe de Thierry Mandon, ça a correspondu avec ce qui s'est passé à Palmyre, avec notamment l'assassinat de Khaled Assad. Donc on a été immédiatement projeté dans cette question de l'archéologie.
Un archéologue, oui.
Un archéologue
très célèbre.
Très célèbre, qui était sur le site de Palmyre et donc qui a été exécuté par l'État islamique. C'était le 18 août 2015, c'était les premiers jours de réunion du cabinet de Thierry Mandon, l'enseignement supérieur et la recherche. Donc immédiatement, on était alertés par les grands archéologues français, notamment Alain Schnapp, Frank Bremer à Nice et plein d'autres collègues qui ont tout de suite fait un état de la situation. Mais à ce moment-là, on imaginait que viendraient en France une dizaine de collègues. On n'avait pas du tout idée du nombre de personnes à accueillir en situation d'urgence. Et on a commencé à se réunir avec l'ANR, le CNRS et d'autres organismes pour voir ce qui se passait.
L'ANR, c'est l'Agence Nationale de la Recherche.
Ouais, je suis désolée, les acronymes. Dans l'enseignement supérieur comme ailleurs en France. Et voilà, donc on a eu du mal à identifier le problème parce qu'il y avait aussi une action du ministère de la Culture, bien entendu, hein, pour accueillir et le Louvre, les archéologues. Ici, progressivement, on a été aussi alerté par le poste d'Istanbul, notamment par la conseillère culturelle adjointe qui m'a tout de suite saisi des inquiétudes qu'elle avait sur la situation turque. Et le moment vraiment important, on s'est rendu compte qu'il y aurait beaucoup plus qu'une dizaine de personnes, parce qu'il y a de plus en plus de demandes. Alain Schnapp m'écrivait, l'archéologue que j'avais connu à Berlin, qu'il y avait des chercheurs qui ne trouvaient pas leur place en France et qui partaient en Allemagne sur des post-docs. Et le moment important, c'était le colloque en mai de 2005 sur Penser la Syrie aujourd'hui, où il y avait Laila Daki et Laila Vignal, chacune.
Mai 2015, oui.
2016. Donc Laila Daki qui est en poste à Berlin et Laila Vignal qui est à Oxford. Et lors de ce colloque, s'est posée cette question de l'accueil et aussi du nombre très important de chercheurs qui dépassaient la vingtaine ou la trentaine. Maintenant, pour faire passer en politique, parce que Thierry Mandon était convaincu de cet accueil, il avait suivi aussi, reçu des chercheurs sur cette question, c'est bah, faut prouver effectivement qu'il y a une demande. On ne va pas créer une institution ou un système pour, je sais pas, 10 personnes, parce que là, il peut y avoir des moyens plus réactifs. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a passé cette demande à l'IORA Israël, à l'École des hautes études, qui avait déjà un dispositif d'accueil des chercheurs, à la fois pour identifier le nombre de bénéficiaires potentiels et surtout comparer aux expériences internationales la situation française, ce qu'on pouvait faire.
Alors justement, on va passer la parole à l'IORA Israël qui s'est vu confier donc ce travail d'enquête, essayer de faire un état des lieux au fond, j'imagine. Situation que vous connaissiez au titre de l'École des études ou dont vous êtes secrétaire général du bureau. Et donc j'imagine que là, vous avez déjà cette expérience depuis quelques mois liée à cette situation internationale de chercheurs qui venaient taper à la porte de l'institution.
Alors, je pense qu'il faut distinguer entre deux niveaux. Il y avait la question de l'accélération à partir de l'été 2015. Elle concernait surtout les étudiants. Hein. Elle concernait les étudiants. On avait fait des opérations, des conférences sur ces questions. On avait des étudiants et des chercheurs qui étaient assez engagés sur les questions auprès des campements de migrants qu'il y avait à Paris. Et assez vite est apparu le fait qu'il y avait un certain nombre de jeunes, notamment, qui avaient interrompu des études en sciences sociales à des niveaux assez avancés, qu'on pouvait aider à reprendre le fil de leur parcours d'études et de recherche en les réinscrivant. Et donc, on a monté progressivement avec des collègues, avec aussi des personnels administratifs qui ont aidé à inventer les choses. Et évidemment, le soutien de la direction de l'école, on a progressivement monté un programme d'aide pour les étudiants exilés et pour les chercheurs qui a permis de leur fournir un certain nombre d'accompagnements linguistiques, sociaux, de dérogations administratives, etc.
On a vu se développer ce type d'initiative dans d'autres universités également,
voilà.
Ou écoles.
Voilà. Il y avait d'autres programmes, pas tout à fait. La différence peut-être entre le nôtre et d'autres programmes qui ont été faits dans d'autres établissements d'enseignement supérieur, c'est qu'on n'a pas fait de parcours séparés centrés autour de la question du français. On a vraiment intégré tout de suite dans l'ensemble des formations avec des tutorats dans différentes disciplines, puisque c'était des gens qui étaient quand même normalement déjà avec des bagages en sciences sociales. Après, de manière plus de long terme, l'École des hautes études, comme notre partenaire la Fondation Maison des sciences de l'Homme, et aussi tout le monde universitaire, la question de l'accueil de collègues persécutés dans différents régimes, ça fait partie de notre histoire et notre tradition. Et puis, de manière générale, on avait aussi toujours des étudiants, par exemple, réfugiés. Il y a des dispositifs en France, les étudiants réfugiés sont exonérés de droits. Enfin, ce qui a changé, c'est l'échelle, peut-être.
Les pays d'origine, évidemment, à la
faveur. Les pays d'origine, la concentration de certains pays d'origine de manière hyper brutale, et les situations de détresse majeure dans lesquelles étaient les personnes quand elles arrivaient. Donc voilà, ces facteurs-là ont conduit à réfléchir un peu autrement, à faire un dispositif plus intégré et à aussi bénéficier du fait que des solidarités étudiantes, enseignantes, personnelles se créaient autour de la visibilité de ce problème et de cette question.
Alors, Pascal Aborier disait tout à l'heure, le premier enjeu, c'était de prendre la mesure, au fond, de la crise, hein, de la situation d'urgence, pour le coup, liée à ces événements qui se produisaient en Syrie en particulier, mais aussi, évidemment, en Turquie et dans quelques autres pays. Donc, j'imagine que la première tâche qui a été la vôtre en enquêtant pour faire ce rapport, ça a été justement de pouvoir répondre à cette question. Au fond, quelle était la demande? Combien de chercheurs étaient dans cette situation d'urgence?
Alors en fait, c'était une idée de départ, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas poser la question comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de demande parce qu'il n'y avait pas d'offre. Et en même temps, il y avait des gens qui étaient déjà là, qui étaient arrivés par des parcours professionnels, par exemple des anciens doctorants qui avaient trouvé les moyens de revenir et dont les anciens directeurs des thèses avaient trouvé le moyen de faire un contrat de recherche sur tel ou tel financements qui étaient à leur disposition. Les instituts d'études avancées avaient pu créer des postes, créer quelques postes d'accueil à la demande de collègues. Donc il y avait à la fois pas mal d'initiatives, mais en même
temps... Juste une parenthèse pour préciser, les instituts d'études avancées sont précisément des institutions, il y en a plusieurs en France, cinq dans différentes villes de France, qui ont pour vocation d'accueillir des chercheurs étrangers. Voilà. Alors pas des chercheurs en situation d'urgence, mais des chercheurs étrangers.
Du coup, ils ont été sensibles à cette question, absolument. Et donc, il y avait à la fois plein d'initiatives et en même temps, on n'arrivait pas à les faire apparaître. Et même en demandant auprès des organismes, par exemple, je me souviens, j'étais allée voir un grand organisme de recherche, j'avais demandé, voilà, ils ne savaient pas qu'il pouvait y avoir. On s'est dit, on va sortir par nationalité. Alors, ils m'ont dit, voilà, j'ai 24 Syriens, mais il y en a peut-être qui sont là depuis 15 ans et d'autres. Donc, on n'avait pas les moyens et les outils où ça aurait pris tellement de temps qu'on aurait perdu en efficacité. Donc, l'idée, c'était de prendre acte du fait que de toute façon, il était évident qu'il y avait... qu'il y avait des personnes qui étaient concernées, et la meilleure façon de le voir, c'était de regarder ce qui se passait à l'étranger, de regarder les programmes qui existaient en Allemagne, les programmes qui existaient en Grande-Bretagne, les deux programmes qui existaient aux États-Unis. Et par exemple, dans l'un d'entre eux, il y avait une liste des personnes en danger qui cherchaient des établissements d'accueil, et on pouvait juste voir sur cette liste qui change au jour le jour, qu'il y avait plusieurs collègues qui étaient donc en recherche de points d'arrivée, qui avaient fait leur thèse en France. Et qui, à ce moment-là, n'avaient pas de dispositif qui permettait de leur proposer quelque chose ici, alors qu'ils étaient, c'était des gens qu'on avait formés.
Ils avaient un lien plutôt avec la France. Mais c'est-à-dire qu'au fond, quand vous avez commencé à travailler sur cette question, vous vous êtes rendu compte que finalement, il y avait un retard en France, si on compare à la situation qui prévaut en Allemagne, qui prévaut en Grande-Bretagne ou aux États-Unis.
Je ne sais pas si c'est un retard, parce qu'en fait, dans ces pays-là, ce sont des fondations privées. Et alors, c'est une différence structurelle, c'est-à-dire que on n'a pas de grandes fondations de recherche comparables à ce qui peut exister dans ces autres pays. Mais dans ces pays-là, les pouvoirs publics n'ont pas fait ce qu'a fait depuis le gouvernement français par l'intermédiaire de Thierry Mandon. Donc finalement, on a construit complètement autre chose. On était en retard parce que structurellement, on n'avait pas ce type d'outils. Mais
disons, il n'y avait pas de programme, mais
Mais il n'y avait pas les acteurs qui, ailleurs, avaient porté ce genre de programme. Voilà.
Pascal Laborier.
Il me semble que la différence avec les autres pays, notamment l'Allemagne, c'est que le système universitaire en France est structuré différemment. En Allemagne, au-delà des fondations privées qui peuvent apporter une aide ponctuelle et réactive sur, effectivement, de l'accueil de scientifiques en danger, le système universitaire est bâti de telle façon que chaque professeur allemand peut bénéficier de postes, de contrats, de postdocs de 3 ans, très simplement, et donc sur des appels d'offres, et tout le système est construit comme ça. En général, on n'est pas titulaire de son poste avant 45, 50 ans et professeur d'université. En France, on a la chance d'avoir un système où on rentre à l'université comme maître de conférence ou comme chercheur au CNRS ou chercheur à l'INSERM, à l'IRD, etc. Donc on est tout de suite assez vite fonctionnaire, mais du coup il n'y a pas de réactivité, c'est-à-dire que on peut pas imaginer que un chercheur, quelqu'un qui est en Syrie pendant la guerre peut déposer un projet de recherche au CNRS ou passer devant les instances qui qualifient pour passer les concours à l'université, c'est impossible. Donc il faut un temps pour venir en France d'accueil assez réactif, et on n'a pas tellement ça. On a quelques petits contrats, mais on n'a pas cette réactivité qu'ont les Allemands. C'est pour
mais
ça qu'il fallait penser...
Mais est-ce qu'on peut pas même aller plus loin, parce que vous connaissez bien le monde universitaire français, mais allemand aussi, vous avez beaucoup travaillé sur l'Allemagne, Pascal Laborier. Est-ce que si on élargit également au Royaume-Uni, en Angleterre, est-ce qu'on n'a pas un monde académique français qui est, malgré tout, comparé aux autres, très très français? C'est-à-dire il y a assez peu de chercheurs étrangers, même si les choses ont évolué ces 10 dernières années.
Non, soit je dirais pas ça, parce que il y a pas plus de chercheurs étrangers, me semble-t-il, en Allemagne qu'en France. On est assez ouvert au concours et à nos collègues. C'est simplement la manière dont est structurée l'embauche. C'est plutôt ça, en fait. Mais il faut voir que c'est les avantages et les inconvénients de chaque système, parce qu'en Allemagne, c'est aussi assez brutal, parce que se faire licencier à 50 ans d'un poste de vacataire et plus trouver de poste dans l'université, c'est très brutal. C'est très accueillant, mais j'ai plein d'anecdotes de collègues dans leur centre. Il y a quelqu'un qui a été licencié du jour au lendemain d'un projet de recherche pour mettre un chercheur réfugié à la place. Donc, c'est pas si simple. Il n'y a pas un système parfait et l'autre qui ne serait pas. Donc, il faut s'adapter au système. Et en tout cas, il fallait trouver une solution pour faire à la fois du privé en France et du public, ce dont on n'a pas l'habitude. mais que les fondations allemandes font très facilement avec les partenaires universitaires. C'est pour ça que ce dispositif a été inventé dès la rentrée 2016, avec l'idée qu'il fallait un soutien public, mais faire aussi du fundraising avec un soutien qui était celui de la Fondation de France.
Alors on va rentrer justement dans le dispositif. Comment vous êtes arrivé, Lior Israël, dans ce rapport, à ces préconisations, à l'idée que en France, on est dans une tradition différente, donc les pouvoirs publics doivent jouer un rôle important, celui d'initiative déjà, puisque vous avez confié cette réflexion, mais aussi d'opérateur, mais que ce serait peut-être idiot, après tout, de se passer du soutien d'autres types d'acteurs privés qui avaient peut-être moyen d'imaginer quelque chose d'hybride. Comment vous êtes arrivé à cette réflexion?
Alors, il y avait déjà une première hybridation, ce qui était de comment penser l'accueil de chercheurs dans des centres de recherche, dans des départements, et l'articulation avec un programme national. Il y a que le double risque, c'était soit d'envoyer des gens un peu au hasard dans les différents organismes, soit de faire remonter des demandes et en sachant pas très bien. Donc, on est parti sur l'idée que, d'ailleurs, j'ai reprise dans d'autres programmes existants à l'international, le cofinancement. C'est-à-dire que normalement, les candidatures des personnes, elles passent par des universités ou par des organismes qui les construisent et réfléchissent à meilleure insertion locale en fonction des spécialités de recherche et en faisant l'évaluation scientifique pour être sûr que les personnes qu'on accueille, parce que c'est quand même un programme pour la science, soient en mesure de s'intégrer du point de vue de leurs compétences dans les équipes de recherche.
Donc ça veut dire les départements universitaires, les laboratoires
absolument.
De recherche.
Et donc eux, ils vérifient en fait cette adéquation et ils portent ensuite la demande en s'engageant à cofinancer à peu près à hauteur d'un tiers, ce qui permet de garantir l'engagement réel en fait des institutions sans gréver trop fortement leur budget.
Donc ça c'est de l'argent public,
voilà, donc
mais
il y a un tiers
l'argent public
qui vient du budget des établissements. Le programme PAUSE rajoute en gros les deux tiers restants pour faire l'enveloppe salariale permettant pour l'instant pour un an de rétribuer ses collègues, en fonction évidemment de leur âge, leur ancienneté, etc. Mais le montant PAUSE, il vient d'une dotation publique qui est éventuellement augmentée par la possibilité de contribuer auprès de la Fondation de France, parce qu'il nous semblait que l'arrivée de ces chercheurs, évidemment, c'est une solidarité entre collègues, c'est accroître le dynamisme de la recherche, mais c'est aussi accroître le potentiel de la France en matière d'innovation et de recherche. Et ça intéresse d'autres acteurs que ceux du monde académique stricto sensu. Donc ça peut intéresser, on espère que ça intéresse, des acteurs du monde industriel, économique, et puis aussi des citoyens qui pensent que, voilà, qui ont envie, en fait, d'aider à ce mouvement important, puisqu'on a effectivement reçu beaucoup de propositions. Finalement, ça s'est révélé tout à fait en phase avec ce qu'on pensait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une demande, entre guillemets, qui attendait qu'à s'exprimer, malheureusement.
Sachant que c'est une manière de défiscaliser intelligemment aussi pour les gens qui se trouvent dans cette situation. C'est-à-dire qu'ils gagnent quand même pas mal d'argent, mais ça leur permet de contribuer à ce programme. Vous en êtes où de ce soutien-là qui passe, donc vous le disiez, Pascal Laborier, par la Fondation de France pour gérer cette partie privée du soutien au programme. Comment ça répond?
Il faut préciser ici que donc le programme a été localisé au Collège de France.
Oui, ça c'est très important.
C'est très important
de comprendre l'équilibre, parce que ça en dit long, je trouve, sur la manière dont fonctionne l'université. C'est-à-dire qu'à la fois il y a l'idée de confier au Collège de France, donc c'est assez prestigieux, c'est une institution qui est à certains égards un peu au sommet du monde universitaire, et en même temps l'idée de ne pas du tout, de la part du Collège de France, imposer quoi que ce soit, puisque ça remonte par les universités dont l'autonomie de décision est préservée. C'est cet équilibre-là qui me semble très très important de souligner.
Voilà, et donc ils ont pris la tête d'un comité de parrainage à la demande de Thierry Mandon en octobre 2016, et le programme a été créé donc mi-janvier 2017, donc ça a été très réactif. Je pense qu'en termes de politique publique, c'est même express, et le premier appel d'offres a été fait immédiatement avec des réponses dès le mois de février. Donc ici, il y a eu beaucoup de réponses parce que le premier appel d'offres en moins de 10 jours, il y a 40 établissements français qui se sont mobilisés, qui ont présenté une soixantaine de candidatures. Il y a eu un second appel en mars. Donc là, on voit vraiment qu'on a une centaine de demandes, plus d'une centaine de demandes, et on a réussi à financer dans deux appels 60 candidatures, enfin 60 dossiers pour venir. Il y aura un troisième appel d'offres avant l'été.
Alors qui sont-ils ces demandeurs de...
Voilà, alors donc ici il y a bon, un peu plus d'hommes que de femmes, mais il y a quand même beaucoup plus de femmes que ce qu'on imaginait, puisqu'il y a une thématique, peut-être que Laura pourra préciser ça, sur le fait qu'on avait d'abord de manière visible en France des hommes qui faisaient des demandes, donc ce système permet l'émergence de candidatures féminines. Actuellement, en raison de ce qui se passe en Turquie, il y a plus de 48 000 collègues qui sont suspectés et révoqués par décret. On a eu la moitié des demandes de la part de collègues turcs. Un tiers sont d'origine syrienne. Et puis, on a également des collègues d'Algérie, d'Irak et du Yémen.
Donc on voit qu'on a des situations différentes. On a des pays dans lesquels c'est le chaos total, la guerre, comme la Syrie, mais on a des pays dans lesquels on a des régimes autocratiques qui menacent la liberté académique, qui empêchent à des chercheurs, à des enseignants de faire leur travail.
Voilà, ça peut être comparé aussi à la situation, parce que on ne s'est pas occupé que des scientifiques, il y a aussi tous les étudiants dans nos universités. Et là, de la même façon, on peut compter qu'il y a une part importante d'étudiants dans les universités. Et là, on a aussi des étudiants qui viennent d'Éthiopie, du Bangladesh, de Pakistan, du Soudan, d'Érythrée, d'Afghanistan, etc. Donc c'est une réalité assez variée. Et les modalités d'arrivée sur le territoire français sont aussi différentes.
J'imagine que Laura Israël, les dossiers sont très singuliers, les situations délicates, difficiles.
Oui, alors il y a deux grands types de dossiers. Il y a des gens qui sont déjà là.
En France.
Qui sont arrivés en France depuis quelques mois, pour certains un peu plus longtemps, et qui se sont, pour certains, ont déjà eu le statut de réfugiés, sont souvent dans des conditions de vie très précaires, logés par des amis, etc., mais sont sur le territoire français. Et puis, il y a d'autres gens qui sont soit dans leur pays d'origine, soit en cours de migration, dans un pays limitrophe, et qui nous adressent leur demande de là où ils sont.
Depuis l'étranger, donc.
Depuis l'étranger, et là où se pose la question aussi de les faire venir et de les accompagner dans leur insertion. Donc ça pose quand même aussi des questions en termes d'accompagnement social. Il y a évidemment l'aide du CNUS aussi qui est extrêmement importante. Voilà, on rentre dans des questions aussi très pragmatiques, et ce qui a été souhaité dans le programme depuis le départ, et ce qui est porté voilà par tous, y compris... par l'équipe de direction avec Edith Heard et Alain Prochian, c'est vraiment de réfléchir en humanité sur toutes ces dimensions-là, penser à ceux qui viennent avec leurs enfants, penser à comment ils arrivent, parce que chaque situation est singulière, que ce qu'ils ont traversé peut être très variable, que la distance par rapport à la dernière fois qu'ils ont pu exercer leur métier est aussi variable entre des gens là qui sont en Turquie, qui viennent d'être limogés, qui faisaient cours la semaine dernière, et puis des gens qui ont migré depuis la Syrie, qui ont mis 3 ans pour arriver. Voilà, on a aussi des types de rapports à l'existence et à la vie scientifique qui n'ont pas la même configuration. Et donc tout ça demande vraiment une attention à la fois dans l'accueil des candidatures, mais aussi dans l'insertion locale dans les universités, les équipes de recherche.
Pascal Laborier, évidemment, l'important, c'est la pérennité de ce programme. Vous avez souligné tout à l'heure la rapidité avec laquelle ces mesures ont été mises en place, une fois l'analyse faite de la situation. Ce type de démarche n'a de sens que s'il s'installe, s'il s'institutionnalise, au fond. Et vous avez, à plusieurs du comité de parrainage scientifique, signé une tribune publiée sur le site du journal Le Monde.
Oui, parce que... Il faut dire que cette question de l'accueil en urgence s'est souvent posée. D'ailleurs, il y a eu on n'en a pas parlé tout à l'heure, historiquement, il y a déjà eu en France un fonds comme ça qui a existé dans les années 30, en 36. Louis Rapkin, qui était un scientifique russe, et Sébastien Balidebar, qui en avait parlé au colloque du Collège de France en octobre, qui avait attiré notre attention
sous là-dessus. Le gouvernement du Front Populaire.
Sous le gouvernement du Front Populaire. Et ça visait à accueillir les scientifiques d'Europe de l'Est, persécutés, et également ceux qui venaient d'Espagne et du Portugal. Ce fonds a fonctionné, et lui-même, sous Vichy, a dû partir, s'exiler, et il a créé le fonds chez Rockefeller, la fondation Rockefeller, d'accueil des scientifiques français en exil. Donc ici, on peut être tour à tour scientifique accueillant et accueilli. Alors, pour pérenniser un tel fonds, donc il faut un engagement public, il est de nature, c'est-à-dire que c'est bien les universités ou les établissements qui présentent des candidats, donc c'est aussi une dimension importante sur l'accueil matériel des personnes, parce que c'est pas depuis Paris qu'on va voir comment est accueilli un collègue à Nantes, Strasbourg ou à Lyon, ça n'aurait pas de sens. Donc il y a une participation matérielle et aussi...
Et même une initiative,
une initiative, dire voilà, parce que de toute façon, pour intégrer les personnes, que ça soit ensuite... de nouveau dans la vie scientifique, ou bien trouver un emploi dans une entreprise ou ailleurs, hein, puisqu'on ne pourra pas intégrer tout le monde dans le monde scientifique, c'est évident. Ici, il faut l'initiative locale. L'État s'est engagé, puisque dès le début du programme, 1 million a été mis et 3 emplois pour gérer ce programme au Collège de France, avec un contrat qui porte sur 5 ans. Par ailleurs... il y a dans ces emplois quelqu'un qui est chargé du fundraising, c'est-à-dire de s'occuper de chercher de l'argent privé. Il y a déjà une première entreprise qui a tout de suite répondu. Là, c'est Michelin de manière importante, hein, puisque les parcours, les mobilités sont au corps de leur fondation. On a eu plusieurs contacts également avec des sociétés philanthropiques. La question de la migration et de la science dans la migration, c'est une question importante. Et on voit bien que les scientifiques sont souvent en danger avant les autres citoyens. Hein, mais la question du danger pour les intellectuels, les chercheurs, les artistes, etc., en fait, ça arrive avant la rupture des relations diplomatiques, souvent. Donc, comment on fait pour accueillir des personnes qui, de fait, n'ont pas forcément... Bon, la Syrie, c'est différent, mais la Turquie, c'est une question nouvelle. Comment on fait pour accueillir des gens qui ne sont pas réfugiés, mais en danger quand même?
Au fond, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est un laboratoire, au fond, parfois, voilà. de ce qui menace. Et je voulais juste, Lior Israël, dans cette tribune, vous pointez un climat global qui dépasse largement celui de la situation tragique de pays dans lesquels les chercheurs sont d'ores et déjà persécutés, mais un climat global de défiance à l'égard de la science. Il y a 15 jours, il y a eu cette marche des sciences mondiale, hein, qui est née d'une initiative américaine contre certaines décisions du président Trump. Et on peut aussi parler, vous en parlez dans la tribune, de ce qui se passe à Budapest, avec la Central European University, qui est financée par George Soros et qui est mise à mal par le régime israélien.
Oui, absolument. C'est-à-dire que ils sont en danger, ceux qu'on aide, mais il y a deux types de dangers, en fait. Il y a un danger vital, évidemment, pour certains, et puis il y a un danger académique. Ils ne peuvent plus exercer leur métier, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus penser librement. Et en fait, voilà, être chercheur, c'est penser librement. Et ce danger-là, il menace beaucoup d'entre nous dans de nombreux pays. Et un appel à cette solidarité, c'est aussi un appel à cette vigilance de tous dans des contextes très différents.
Merci beaucoup, Lior Israël. Merci beaucoup, Pascal Laborier. Vous pouvez réécouter cette émission sur la page de La Suite dans les idées. Vous pouvez également la télécharger en podcast et la partager. Voilà, c'était La Suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Donnet. À la technique aujourd'hui, Pierrick Charles. À la réalisation, Milina Elig. C'est Étienne Klein que vous retrouvez dans quelques instants sur l'antenne de France Culture pour sa conversation scientifique.